France Info Junior consacrée aujourd'hui à la Première Guerre mondiale en cette période de commémoration. Mais la Première Guerre mondiale à hauteur d'enfant. Bonjour Jean-Pierre Guénaud.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes écrivain, vous doit notamment Parole de Poilu et Mon Papa en guerre, recueil de lettres où l'on découvre la vie des soldats et de leurs familles pendant la Grande Guerre. Vous allez répondre aux questions d'une classe de CM2 de l'école Victor Cousin à Paris. Et c'est Eve qui commence.
C'était comment les conditions de vie des enfants ?
Alors d'abord, 4 millions de poilus dans les tranchées et 4 millions et demi d'enfants sur les bancs de l'école primaire de la République. La vie devient très dure pour eux, très très dure parce que d'abord ils souffrent de l'absence, leur père part, ça peut être leur grand frère, ça peut être leur grand-père, souvent leur instituteur qui va être remplacé par une femme. Et tout de suite c'est la porte ouverte aux angoisses, aux cauchemars, à l'attente. La mère souvent va au travail, si elle ne travaille pas elle n'a pas le choix, elle doit partir à l'usine. La solde d'un poilu ne suffit pas pour faire vivre une mère et son bébé. Ces enfants vont souffrir de la faim, terriblement. On manque de tout, on manque de nourriture. 50% des enfants vont être sous-alimentés, maigres, anémiques pendant 4 ans et demi. Rendez-vous compte qu'en 1917, la taille moyenne est de 2 à 3 cm inférieure à celle de 1913. Et puis il y a des drames. Les enfants déplacés au début de la guerre. Il y a 30 000 familles qui accueillent des enfants déplacés. Donc
c'est une guerre qui n'a pas épargné les enfants.
C'est une guerre qui n'a pas épargné les enfants.
Constance.
Est-ce qu'il y avait beaucoup d'orphelins pendant la guerre 14-18 qui ont perdu leur mère et qui ont perdu leur père ?
Ben oui, c'est très préoccupant parce que les 1 500 000 morts, ils ont fait 600 000 veuves de guerre et plus d'un million d'orphelins. Et c'est pour ces orphelins qu'on a créé, en juillet 1917, le statut de pupille de la nation. Ce qui est terrible pour ces orphelins, c'est que quasiment 30 à 40% des 1 500 000 poilus tués pendant la Grande Guerre ont été tués pendant les 9 premiers mois du conflit. Mais les mères, les veuves, ont attendu leur pension qu'elles n'ont touchée qu'en 1920 ou 1921. Imaginez la condition de ces enfants qui se retrouvent dans des familles privées de ressources. Ça va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de commencer à se régler.
Une question d'Elena.
Les garçons, quand leur père est parti au front, est-ce qu'ils travaillaient à leur place ou non ?
Alors, il y a deux choses à dire. Il y a énormément d'enfants, c'était une France de paysans. Donc, il y a eu beaucoup d'absentéisme dans les années de la guerre, parce que, et y compris en milieu urbain, il y a eu ce qu'on appelle des classes jardins, en quelque sorte. Il fallait produire de la nourriture. Quant aux petits paysans, bien entendu,
ils se sont
fait plus absents à l'école. Alors, on peut citer Jean Zay. C'est un enfant. Pendant la guerre, son père est journaliste et son père part sur le front. Donc il remplace son père. Que fait-il ? Il fait à la main. Il rédige un journal, comme Le Monde aujourd'hui ou Libération. Il y a 40 collaborateurs, c'est lui avec 39 pseudonymes. Il écrit tout à la plume, façon, typographie.
Ah, c'est incroyable.
Les petites annonces, les news, les grands titres, c'est incroyable. Voilà, il a remplacé son père, Jean Zay.
Eve.
Est-ce qu'il y a des enfants qui sont morts à la guerre ou alors ils ont pu venir dans les tranchées par exemple ?
Oui, il y a sans doute des enfants civils qui ont été victimes de dommages collatéraux quand les bombes tombent, quand les obus tombent. Mais ils ont été tués indirectement, affaiblis par la sous-nutrition. La tuberculose a fait beaucoup de ravages et surtout la grippe espagnole. Quant au fait que les enfants aient dans les tranchées, non, on a des cas de fugue. Il y a des écoliers qui fuguaient, qui voulaient rejoindre leur père dans les tranchées, mais enfin, en général, on les rattrapait. Puis on a le cas de quelques adolescents qui ont triché sur leur âge pour s'engager.
Pour pouvoir aller se battre. Oui. Elena.
Qu'est-ce qu'ils écrivaient à leur famille, les poilus ?
C'est déchirant. À chaque fois qu'un père écrit à ses enfants, il pense que sa lettre a une valeur de testament parce que ça peut être la dernière. La plus belle lettre, c'est celle, à cet égard, est celle de Martin Vaillagou. Fin août 14, il aurait toutes les raisons d'avoir des désirs de vengeance, d'homicide pas du tout. Il écrit à ses deux fils en leur disant « Jusqu'à présent, mes enfants, les hommes n'ont su que s'entretuer, s'entre-déchirer, on est fin août 14. C'est à vous que reviendra la tâche qui consistera à bâtir la fraternité universelle et l'Europe de demain. »
C'est un beau message. Hein.
C'est un très beau message.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de lettres qui ont été envoyées au cours de cette guerre ?
C'est faramineux. 4 millions de lettres par jour.
Allez, cette question de Lituzane.
Est-ce qu'ils avaient le droit d'écrire tout ce qu'ils voulaient dans les lettres ?
C'est une question très importante. La censure est complètement enfoncée. Il y a 4 millions de lettres par jour, il y a 5000 fonctionnaires dans 500 bureaux de censure, donc ils arrivent à traiter 2-3% du courrier, pas plus. Très vite. La lettre devient une soupape de sécurité. C'était dire l'horreur, Parce que si on ne la dit pas, on devient fou.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de la vie des enfants au cours de la Première Guerre mondiale, Jean-Pierre Guénot. Vous étiez notre invité aujourd'hui dans France Info Junior en partenariat avec Un jour une actu, le magazine qui a d'ailleurs lancé une grande opération, Les Enfants de la Paix, à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.